Vous écoutez RTL.
Bonjour Christelle.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup. Anecdotes, secrets, révélations, c'est parti pour une heure de curiosité et d'histoire racontée dans la bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Sidonie.
Bonjour Thomas, bonjour les curieux. La longévité au programme de la curiosité de Jeanne Calment. Est-elle vraiment morte à 122 ans et 164 jours? Les Russes en doutent, pas notre invitée, vous verrez. Comment et pourquoi a-t-elle vécu si longtemps en telle forme, vous allez voir. Toutes les réponses, ce sera vers 14h30, les curieux.
Et tout de suite, les sources d'inspiration des auteurs de fantasy. Vous savez, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, on va raconter l'histoire de leurs auteurs.
Il y a peu, je vous ai proposé de faire la paix. Si vous n'aviez pas été aussi arrogante, vous auriez pu regagner votre pays natal avec toute une flotte.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous sommes ici pour discuter édition.
Thomas Hugues.
Non, pour échanger des insultes.
Sidonie Bonnec.
Vous et vos amis étrangers, vous abandonnez la Grande Pyramide et la cité de Myrine.
Sur RTL.
Nous n'avons pas été assez clairs. Nous parlons de votre reddition, non de la mienne.
Bonjour Anne Besson, bienvenue.
Bonjour,
bienvenue
à vous.
Vous êtes professeur des universités, prof à l'université de l'Artois et spécialiste de la fantasy. Ce qui nous a donné envie de vous inviter, c'est ce suspense intenable pour les fans de la série Game of Thrones. On dit le trône de fer en français,
oui,
c'est ça ?
Oui, mais Game of Thrones, ça fait quand même beaucoup plus classe.
Voilà, on saura de quoi on parle. La chaîne américaine HBO a annoncé que la dernière saison serait diffusée le 14 avril prochain. Donc le décompte a commencé dans l'esprit des fans. Tiens, c'est combien de fans ? Est-ce qu'on peut chiffrer ça dans le monde ?
La dernière saison a été suivie, le premier épisode de la dernière saison, par 16 millions de téléspectateurs, plus tout le piratage. Donc ça fait, c'est énorme.
C'est,
et puis ça
série
n'a pas cessé de monter.
La plus regardée au monde, vraiment, c'est la série préférée des humains, on peut dire ça ?
Oui, tout à fait. Elle a diffusé dans 173 pays différents, c'est également un record.
Ouais. Et je crois que c'est aussi la plus piratée, ce qui est logique. Je crois que c'est pendant l'été 2017, il y a un épisode qui a été piraté par 1 milliard de personnes, ce qui est à la fois...
C'est pas bien.
C'est pas bien.
Et en même temps,
c'est quand même
un
chiffre impressionnant. On aime bien, Anne Besson, poser le décor quand on démarre un thème. C'est quoi la fantasy ? Rappelez-nous tout simplement. C'est un genre littéraire au départ ?
Alors, c'est un genre littéraire et médiatique, presque tout de suite, qui donc s'exprime dans les différents médias et notamment dans le vaste domaine du jeu. Qui imagine des mondes où la magie existerait comme une norme. Que ce soit dans notre monde, oui. Harry Potter, ou à proximité immédiate de notre monde, ou alors dans des mondes secondaires qui sont inspirés du passé et des mythes, des légendes, de la littérature, de l'histoire.
Ça peut surprendre, vous en êtes la preuve, un genre littéraire qui est enseigné à l'université.
Oui, c'est un genre qui est extrêmement riche, qualitativement et quantitativement, et donc qui est susceptible d'intéresser à la fois les littéraires, les historiens, les spécialistes de l'image, tous ceux qui travaillent sur les communautés de fans aussi, qui sont très actives en fantasy.
Et on va le comprendre parce qu'on va trouver aussi les sources historiques d'inspiration des auteurs, notamment de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux.
Game of Thrones, c'est la série, vous nous l'avez dit, la plus regardée au monde. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, raconte quoi, Anne Besson ? Vous nous faites le pitch ? C'est vraiment pas une question sympa de ma part, parce que pour bien connaître la série, je suis sûre que vous allez le faire.
C'est pas facile.
Les grandes lignes.
Alors, Game of Thrones, ça raconte une guerre de succession à la tête du continent de Westeros, tandis que la magie qu'on croyait disparue ressurgit à la fois sous la forme de dragons, dangereux mais fascinants, et alors sur la forme franchement maléfique, de marcheurs blancs qui lèvent une armée des morts.
Alors Anne Besson, c'est une série brutale, boueuse, c'est vrai que c'est très violent, c'est très compliqué à suivre, il y a des familles, des noms incroyables.
C'est pour ça que j'ose pas y entrer, quoi. J'ai pas démarré.
J'ai regardé 4 fois le premier épisode et au bout
avant de comprendre.
avant de me lancer complètement. Vous êtes terrible. Hein.
Ah ouais.
Comment vous expliquez son succès, Anne Besson, à cette série Game of Thrones ?
Alors, c'est effectivement une série très brutale, connue pour son taux de mortalité très élevé, y compris parmi les personnages principaux. C'est une des choses qui a attiré l'attention au départ. Mmh. Et puis, c'est une série moralement très grise, où il n'y a pas de personnages franchement bons.
C'est un peu cynique.
Parce que l'essentiel, c'est la survie. Dans ce monde-là, l'enjeu, c'est de survivre à l'hiver qui vient. Winter is coming. cette atmosphère particulière fait clairement partie des éléments qui expliquent le succès de la série, parce que ça tranche franchement avec ce qu'on connaissait jusqu'alors de la fantasy.
Alors, l'auteur s'appelle George Martin, c'est qui ? Il vient d'où ? C'est un Anglais, un Américain ?
C'est un Américain, qui est né en 1948, qui a écrit de la science-fiction, de l'horreur, des histoires de super-héros, qui a été scénariste de séries télévisées.
Et donc c'est d'abord un livre, c'est d'abord un roman avant de devenir une série.
Tout à fait. Il commence à écrire dans les années 90 une saga romanesque qui s'appelle Une chanson de glace et de sang, A Song of Ice and Fire, et de feu.
Oui, d'accord. C'est le premier titre de Game of Thrones.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle comme ça.
Est-ce qu'il y a des histoires vraies dans Game of Thrones ? Est-ce que c'est de la pure fantaisie, donc de la pure imagination, ou ça s'inspire de faits réels, de guerres réelles, je sais pas, du Moyen-Âge par exemple, ou de l'Antiquité ?
Alors, effectivement, Martin s'appuie directement sur l'histoire. C'est quelque chose qu'il met en avant dans les sources privilégiées. Et au départ, il avait l'intention d'écrire un roman sur la guerre des Deux Roses, une guerre de succession anglaise.
Alors justement, je vous interromps parce que George Martin, on a retrouvé une interview de lui dans laquelle, il parle de cette source d'inspiration, la guerre des Deux Roses. Écoutez-le.
La guerre des Deux Roses a été l'une de mes inspirations principales. Cette guerre opposait les York et les Lancastres, et j'ai les Stark et les Lannister. Cette guerre était une lutte pour le trône d'Angleterre qui a duré pendant de longues années. On y trouvait de très fortes personnalités des deux côtés, avec plein de retournements de situation. Ce n'était pas une guerre facile, pas un simple un contre un, et au milieu de tout ça, il était question de loyauté familiale, d'amour, de sexe et de choses incroyables.
Il y avait vraiment tout ça, un baisson dans la guerre des Deux Roses. Même si ça a l'air violent et un peu sombre, on a envie de retourner au 15e siècle.
Bon, arrêtez de regarder Santa Barbara, allez regarder la guerre, les Game of Thrones, Thomas Hugues.
C'est pas vrai, c'est pas du tout ma série préférée.
Allez, vous êtes prêts.
Je pense qu'on va continuer à parler de l'Europe de la fin du Moyen-Âge et que vous n'aurez plus du tout envie d'y être assez rapidement.
Oui,
tout à fait. Et donc, l'Angleterre de la guerre des Deux Roses, c'est des histoires de complots et de meurtres au plus haut de l'État qui a effectivement inspiré directement George Martin, et plus largement, donc c'est cette ambiance de l'Europe de la fin du Moyen-Âge qu'on ressent à travers la brutalité de la série, puisque la guerre des Deux Roses, c'est la toute fin de cette vaste période qui s'appelle la guerre de 100 ans, et qui a effectivement duré plus de 100 ans, et encore avant, il y avait déjà un conflit en France, un conflit de succession, donc pendant un siècle et demi, on se déchire partout en Europe, guerre civile, guerre internationale, famine, peste.
Dans Game of Thrones, il y a un mur de glace protégé par des soldats, et là aussi on trouve une référence historique bien précise. La curiosité vous y emmène dans un instant. Alors rendez-vous dans l'Angleterre de l'an 122 après Jésus-Christ. Je suis pas sûr que l'ambiance soit très sympa, donc on verra.
Mesdames et messieurs, un tonnerre, que dis-je, un déluge d'applaudissements pour George R.R. Martin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
J'adore l'histoire. Voyez-vous, la fiction historique également. Le mur d'Adrien, ça a été l'une des sources de mon mur, bien évidemment, une inspiration.
RTL.
Je me suis mis debout sur ce mur au coucher du soleil. J'ai essayé d'imaginer ce que ça devait être d'être un légionnaire romain debout sur ce mur sans savoir ce qui était au-delà, ce qui allait vous attaquer.
La curiosité est un vilain défaut.
La fantaisie au menu de notre curiosité en partenariat avec le magazine Historia. La fantaisie, c'est ce genre littéraire qui s'impose partout, à la télévision, au cinéma. Et on en découvre les sources d'inspiration avec Anne Besson, qui est professeure des universités à Douai. Alors on continue de dévoiler les secrets de cette série Game of Thrones, la série inventée par l'auteur américain George R.R. Martin. Et notamment ce fameux mur, vous pouvez nous le décrire et nous expliquer son rôle et dans le roman et dans la série télé, parce qu'il est très important ce mur.
Alors l'origine, donc, c'est ce mur d'Adrien dont on vient de parler, qui a été construit par les légions romaines au 2e siècle après Jésus-Christ sur toute la largeur du pays pour séparer en deux la partie civilisée romaine et la partie barbare.
Donc l'Angleterre était coupée en deux à l'époque, c'est
oui,
ça ?
Oui, enfin l'Angleterre au niveau de la frontière avec l'Écosse à peu près, et ce jusqu'au 5e siècle où ça commençait à être abandonné suite à la chute de l'Empire romain. Et Martine reprend exactement ce même principe d'un mur qui est tout à l'extrême nord de son continent, qui est gardé par l'équivalent de Légion, hein, par la fameuse garde de nuit, et qui sert à protéger les royaumes humains d'une mystérieuse menace venue du nord.
Ah, parce que c'est, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mur dans Game of Thrones.
Si, on le sait, en fait, dès le tout début du prologue, hein, donc je ne spoil rien, on sait qu'une espèce d'armée de zombies, hein, pour le dire vite, menace de déferler sur les vivants et va imposer l'unité à plus ou moins long terme dans le monde de Game of Thrones.
Donc on l'a bien compris grâce à vous, Anne Besson, il y a des sources d'inspiration historique dans Game of Thrones, dans le Trône de Fer et signé George Martin. Et il y a aussi peut-être des messages politiques. Est-ce qu'il fait passer des messages dans ses textes, dans ses films ?
C'est en tout cas ce que les lecteurs et les spectateurs veulent y voir. Ouais. Et les lectures politiques de Game of Thrones sont nombreuses, ce qu'on comprend en raison de son succès phénoménal. Hein. Beaucoup de gens veulent y projeter leur message.
Donc c'est quoi ? C'est plutôt une série de gauche ou de droite ?
Alors, George Martin, lui, est clairement un auteur de gauche.
D'accord.
C'est un auteur de la contre-culture américaine, okay. De manière évidente, et notamment un des leaders de la gauche européenne, le leader de Podemos, le mouvement contestataire espagnol, oui. A fait paraître un ouvrage, Les leçons de Game of Thrones, et se présente souvent déguisé en Khaleesi.
C'est qui Khaleesi ?
Khaleesi, c'est Daenerys, c'est l'héroïne, la mère des dragons, donc celle qui, justement...
Une blonde peroxydée extraordinaire et puissante.
Je vais regarder la série. Vous trouvez les bons arguments.
Elle est souvent nue.
Ah, bah en plus, voilà un énième
argument.
Ah
oui, là, ça fait comment Thomas.
Ouais. Bon, on va devenir un tout petit peu sérieux. Il paraît-il, une critique de la politique américaine au Proche-Orient dans Game of Thrones. On peut trouver ça.
Oui, il y a une réflexion sur la politique américaine au Proche-Orient, justement à travers le parcours de Daenerys, que Martine a défini comme un mélange de Jeanne d'Arc, Napoléon et Laurence d'Arabie. Et on la voit donc qui parcourt le désert et qui libère des villes de leur gouvernement esclavagiste. Hein, c'est dans la baie des esclaves et elle est vraiment acclamée comme une libératrice, etc. Et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce fantasme des Américains qui sont les démocrates libérateurs. Sauf que Daenerys essaye de s'arrêter dans une de ces villes pour la gouverner et là elle s'enlise dans une interminable guérilla. Elle ne connaît pas les codes, elle ne connaît pas la culture et elle va échoué très largement dans cette tentative d'occupation d'un pays qui pourtant l'avait accueilli les bras ouverts.
Et donc on pense évidemment
exactement,
à l'armée américaine embourbée soit en Afghanistan, soit en Irak.
Tout à fait.
George R. R. Martin, pourquoi ces deux initiales ? Les fans, vous le savez forcément, mais pour tous les autres, la réponse est dans un court instant sur RTL.
RTL.
9 anneaux furent donnés à la race des hommes.
La curiosité,
qui par-dessus tout désirait le pouvoir,
est un vilain défaut.
Mais ils furent tous dupés.
Thomas Hugues.
Car un autre anneau fut forgé.
Sidonie Bonnec.
Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres.
Ça rigole pas ce machin, il paraît.
Mais ne cherchez pas à trouver une logique là-dedans. Enfin, c'est crétin comme une tradition.
un peu de Kaamelott quand même, faut se faire plaisir. Et surtout, un extrait du Seigneur des Anneaux, puisque dans ce genre de la fantasy, il y a Game of Thrones qui domine tout aujourd'hui, mais il y a le Seigneur des Anneaux signé Tolkien. On est toujours avec Anne Besson, je rappelle que vous êtes professeur d'université. Alors j'ai dit à Douai tout à l'heure, évidemment, c'était Jean-Michel à peu près. Vous êtes prof dans quelle ville en fait ?
À Arras.
Ah, c'est pas loin,
c'est
l'Artois. C'est quand même l'université de l'Artois. Les... Bon, très bien.
Donc, on révisera un peu votre géographie.
Mais merci beaucoup. J'étais pas trop là. Et donc vous êtes spécialiste de la littérature fantasy. On a appris, tiens, grâce à vous, que George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, s'est inspiré d'une vraie guerre qui a ensanglanté l'Angleterre du XVe siècle, la guerre des Deux Roses. George R. R. Martin, et quand on lit le nom de Tolkien, c'est J. R. R. Tolkien. Je suis devin, il y a forcément un lien. Oui ou non ?
Alors oui, bon, alors il se trouve que ce sont effectivement leurs initiales et qu'ils en avaient besoin pour se distinguer de d'homonymes, mais ça n'est pas un hasard.
C'est
si,
Roger, c'est quoi RR
Ronald
Raymond
Breuel.
Raoul.
et donc effectivement, Martine a ainsi fait ressortir le lien qui le liait au père de la fantasy.
Est-ce qu'il y a aussi des différences ? Après, on va parler de Tolkien longuement, mais est-ce qu'il a cherché à se démarquer de Tolkien, qui est un auteur, on va dire, des années 30, 30, 40, 50.
Alors, comme tous les lecteurs de fantasy de sa génération, Martine a été très marquée par la lecture de Tolkien dans la deuxième moitié des années 60. Il lui reprend des éléments, l'ambition de construire un monde complet avec sa propre histoire, sa géographie, etc.
Cosmogonie, on dit.
Oui,
par exemple,
c'est vrai, ouais. Je dis ça. Et puis, en revanche, il essaye de prendre ses distances, notamment en accentuant ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la dimension historique, les références historiques, tandis que Tolkien, lui, était beaucoup plus du côté de la littérature et des mythes et des légendes. Et
Tolkien, c'est vraiment le pape de la fantasy ? C'est le roi, le mentor ?
Oui, c'est vraiment lui qui a rendu le genre tel qu'il est aujourd'hui. Il existait avant, mais il a été complètement bouleversé par l'œuvre de Tolkien.
Donc Tolkien n'a pas inventé la fantasy. Moi, j'aurais répondu oui à cette question, donc je me serais planté. Ça s'est créé quand, la fantasy, ce genre littéraire ?
Dans la deuxième moitié du 19e siècle anglais. Donc c'est une formation toujours un peu longue. Et William Morris peut être retenu comme le nom le plus important pour les débuts de la fantasy.
Et Tolkien qui puise aussi son inspiration dans l'œuvre de Richard Wagner. Écoutez. Comment s'appelle cette œuvre musicale, Anne Besson ?
C'est les Nibelungen, le ring de Wagner.
L'anneau, donc.
C'est l'anneau, oui.
Oui, c'est ça. Alors, bon, vous avez dit, Tolkien s'inspire de Wagner ? Non. Tolkien détestait Wagner pour des raisons à la fois esthétiques et idéologiques. Ils ont une source commune. Légende des Nibelungen, qui est une légende à la fois germanique et scandinave.
C'est quoi cette histoire d'anneau, alors ? C'est quoi la légende ?
C'est un anneau qui a été forgé à partir de l'or du Rhin, donc avec les fameuses filles du Rhin. C'est une histoire très compliquée, comme souvent dans la fantasy, qui fait agir des dieux au moment de leur crépuscule, dans le Valhalla, et d'abord Wotan, Odin.
Je suis perdue là.
Des nains...
Ouais.
Qui se transforme en dragon, des géants, un héros qui s'appelle Siegfried, Sigurd.
Juste l'anneau, il représente quoi déjà ? Il sert à quoi cet anneau ? Comme ça, on va bien comprendre. Ouais. C'est ce qu'il incarne.
Pardon, je vous interromps, moi j'ai pas compris là. Ce que vous venez de décrire, c'est dans l'œuvre de Tolkien ou c'est dans le mythe initial ?
Ça, c'est dans le mythe initial.
Dans le mythe initial.
Moi j'avais compris.
Oui, mais vous êtes beaucoup plus rusé que moi.
Et l'anneau, alors, il représente quoi ? Il sert à quoi dans cette légende ?
Alors, l'anneau, il représente la tentation du pouvoir et de la richesse et il est maudit par le nain Albrecht et à partir de ce moment-là, tous ceux qui en sont les porteurs successifs vont être voués à la destruction. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Tolkien où l'anneau de pouvoir est aussi ce symbole de la tentation.
Il l'a publié quand c'est une trilogie, c'est ça, Le Seigneur des Anneaux? Oui. Elle sort quand?
54-55, dans les années 50. Elle fait suite à Bilbo le Hobbit, le premier roman publié de Tolkien en 1937.
Tolkien qui a puisé son inspiration notamment dans la guerre. À quelle grande bataille de 14-18 a-t-il participé ? On répond à cette question dans un court instant sur RTL. Et puis après, on défend nos couleurs, on défend notre Jeanne Calment et son record de longévité.
Elle est à nous !
Elle est à nous.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La fantaisie au menu de notre curiosité sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h. Comme tous les jours, on aime partager dans la bonne humeur la connaissance, l'expertise de nos invités. Et Anne Besson, professeure d'université et spécialiste de la littérature fantaisie. On parlait de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Donc une trilogie écrite, vous nous l'avez dit, au début des années 50. Qui puise en partie, on a déjà raconté, on va dire, la partie légendaire. Mais qui puise aussi son inspiration dans les guerres, les deux guerres mondiales, et notamment la Première Guerre mondiale. Tolkien a 22 ans quand la guerre se déclenche. Est-ce qu'il est mobilisé ? Est-ce qu'il y participe ?
Oui, Tolkien participe à la Première Guerre mondiale, qui est celle qui l'a inspiré, en 1917, à la bataille de la Somme. Et il en est très marqué, bien entendu, comme tous ceux de sa génération. Il perd beaucoup d'amis. Il va s'en inspirer il va s'inspirer des paysages dévastés qu'il a connus lors de cette participation à la guerre pour le Mordor et sa terre Ghast sur laquelle rien ne pousse. Il va également s'inspirer de la loyauté des simples soldats qu'il avait beaucoup touché pour le personnage de Sam Gamgee qui est un simple jardinier qui accompagne Frodo et qui va devenir un des vrais héros de cette histoire.
Est-ce qu'on retrouve des armes aussi? Des armes qu'il a pu voir à l'œuvre pendant la Première Guerre mondiale, qu'il met dans les mains de certains de ses héros, non? Pas forcément.
Très, très ponctuellement, on peut avoir quelques allusion à des explosions, mais c'est d'accord. Vraiment, globalement, c'est un monde d'inspiration médiévale et donc où les armes blanches dominent.
Comment Tolkien a échappé à la mort pendant ses combats?
Il a été atteint de la fièvre des tranchées et donc il a été rapatrié. Il a été très malade, mais il n'a pas participé longtemps au combat.
Et je disais Première et Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas d'inspiration liée à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il écrit quelques années après la fin de la guerre.
Alors en fait, il a commencé à écrire en 1917 et voilà, il a mis, c'était un perfectionniste, donc il a mis très très longtemps à faire connaître, à publier ce monde qui existait dans sa tête depuis bien longtemps. Donc il a commencé tout de suite après son expérience de la guerre. Si la Seconde Guerre mondiale est présente, c'est dans l'esprit de ses lecteurs, puisque d'accord. Le Seigneur des Anneaux est publié juste après la Seconde Guerre mondiale, auquel le fils de Tolkien a alors participé. Et ses lecteurs, ils voient à ce moment-là une allégorie de la guerre, et notamment de l'arme atomique dans cet anneau de pouvoir tout puissant.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Anne Besson, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de l'Artois. À Arras, ils ont de la chance, vos élèves, c'est une bonne prof, ça. Et puis, on conseille également la lecture du numéro spécial du magazine Historia, consacré à ce genre, la fantasy.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.